Vous êtes bien sûr Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. La France et l'Arabie Saoudite soulignent la nécessité pour le gouvernement libanais de mettre en œuvre des réformes globales, en particulier l'engagement à appliquer l'accord de Taif. C'est ce qu'indiquait hier un communiqué de l'Élysée suite au déplacement d'Emmanuel Macron dans le Golfe. Nous y reviendrons avec la journaliste franco-libanaise Randa Takieddine. Après ce déplacement du chef de l'État français dans trois pays du Golfe, nous écouterons aussi David Rigoulet-Rose, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique et chercheur associé à l'IRIS. Cet appel d'Amnesty International, l'ONG appelle les pays à rapatrier les enfants étrangers enfermés dans des camps au nord-est de la Syrie. Lynn Malouf, directrice régionale adjointe pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord d'Amnesty International, sera l'une de nos invitées. Une douzaine de militants de SOS Racisme ont été agressés par des participants lors du meeting d'Éric Zemmour hier à Villepinte. Ils menaient une action non violente. Le président de l'association, Dominique Sopo, annonce que des plaintes seront déposées. La Coupe arabe des nations, la Tunisie jouera sa qualification cet après-midi face aux Émirats arabes unis, coup d'envoi à 16h. L'équipe de France féminine de handball poursuit son aventure au Mondial 2021. Elle s'est imposée hier soir face à la Slovénie avec un score final de 29-18. La France et l'Arabie Saoudite soulignent la nécessité pour le gouvernement libanais de mettre en œuvre des réformes globales, en particulier l'engagement à appliquer l'accord de Taif. C'est ce qu'indiquait ce dimanche un communiqué de l'Élysée suite au déplacement du président français Emmanuel Macron dans le Golfe. Le chef de l'État qui a lancé une initiative pour aider le Liban avec le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman. Nous y revenons avec la journaliste franco-libanaise Randa Takieddine.
C'est vraiment une dynamique conjointe franco-saoudienne pour essayer de sauver le Liban de l'effondrement total. Le Liban s'effondre actuellement, mais il peut aller encore plus loin. Et le président Macron a tout fait pour essayer de dire aux Saoudiens qu'il faut qu'ils se réengagent au Liban. Et je pense qu'il a pu les convaincre. Mais aussi, il y a bien sûr un grand défi, il y a beaucoup de difficultés qui sont libanaises. D'abord, le contrôle par Hezbollah de la situation, ça ne va sûrement pas plaire aux Saoudiens, et ils vont pas changer d'avis là-dessus. Sauf que ils vont pouvoir essayer, par exemple, de reprendre les relations économiques ou commerciales. Mais tout ça dépend aussi du gouvernement libanais, de ce qu'ils vont faire comme réforme. Et est-ce que le gouvernement, d'abord, va se réunir? Est-ce que le Hezbollah va continuer à bloquer les réunions du gouvernement? Tout ça, ce sont des questions qui sont un défi, vraiment. Mais je pense que la visite du président Macron en Arabie Saoudite a été très utile et très importante pour le Liban, parce que quand même, c'est un processus, une dynamique franco-saoudienne, et les Français vont continuer à œuvrer pour convaincre l'Arabie Saoudite d'aider le Liban, et ça, c'est très important.
Et les deux parties ont souligné que les armes devaient strictement être restreintes aux institutions légales de l'État et que le Liban ne devait être la source d'aucun acte terroriste qui déstabilise la région ou d'exportation de stupéfiants, selon les propos de l'Élysée. À qui s'adresse ce message?
Les sources de l'Élysée ont répondu à ma question sur le communiqué conjoint, en partie sur cette affaire des armes. Et ils ont dit que ce n'est pas la première fois qu'ils le disent, que ça a été dit dans toutes les résolutions des Nations Unies que la France a voté au Conseil de sécurité sur le Liban, que la France n'accepte pas les armes du Hezbollah, bien sûr. Mais entre que la France n'accepte pas et ce que Hezbollah fait au Liban, ben ce n'est pas... Hezbollah n'est pas la France.
La journaliste franco-libanaise Randa Takieddine, suite à ce déplacement du président français dans trois pays du Golfe, entretien présent avec David Rigoulet-Rose, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique et chercheur associé à l'IRIS.
C'est une tournée effectivement express en deux jours qui couvre trois pays du CCG, Conseil de coopération du Golfe, dont évidemment les Émirats arabes unis, le Qatar et dernière étape Riyad. Il faut rappeler que la France entretient avec ces pays des relations plus ou moins étroites, très étroites avec deux d'entre eux, puisqu'il y a des accords de défense, notamment avec les Émirats arabes unis et le Qatar. Qui plus est, la France dispose d'une base interarmes aux Émirats arabes unis depuis 2009. Donc il y a évidemment ce qu'on appelle un partenariat stratégique approfondi, qui effectivement justifie ce type de déplacement, surtout dans un contexte quand même bouleversé par la question des négociations sur le nucléaire iranien, les turbulences régionales. Donc la France considère qu'elle a effectivement un rôle à jouer à sa mesure, ce qui explique la démarche effectivement du président de la République.
Le rôle de la France dans cette région, comment vous pouvez le qualifier ?
Selon les éléments de langage, la France se positionne comme une puissance d'équilibre. Elle a évidemment pas la marge de manœuvre des grandes puissances, en l'occurrence la puissance américaine, mais justement elle a l'ambition de se positionner comme honest broker, intermédiaire, facilitateur pour pouvoir parler aux divers interlocuteurs qui sont souvent en situation de tension avérée. Et donc de ce point de vue-là, effectivement, elle souhaite, c'est d'ailleurs un objectif affiché hein, de la visite du président Macron, au premier rang des priorités, c'est favoriser la stabilité régionale, qui passe aussi par la lutte contre l'islamisme radical, et en dernier lieu par l'attractivité de la France. Mais je dirais que c'est pas le prima déterminant de la visite en question.
L'un des éléments importants de cette visite, c'est cette initiative commune pour le Liban annoncée depuis l'Arabie Saoudite.
Oui, effectivement, il y avait le souhait de sa part de trouver une option justement pour favoriser le dénouement de la crise libanaise, et ça peut passer que par Riyad, puisque Riyad a décidé de couper tous les ponts avec Beyrouth en fermant ses frontières aux importations libanaises. Et donc le souhait du président de la République, c'était d'essayer d'infléchir l'intransigeance du prince Mohammed bin Salman, d'où l'annonce effectivement qui a été faite d'une forme d'assouplissement qui a été facilitée par l'obtention, dit-on, par Paris, de la démission du ministre Georges Cordaï, qui avait servi de prétexte justement aux tensions entre Beyrouth et Riyad. Donc il y avait de la part du président Macron, effectivement, qui a fait du Liban une affaire personnelle, la nécessité de parler avec Mohammed bin Salman. Et puis sur le fond, de toute façon, il l'a dit de manière explicite, l'Arabie Saoudite est le poids lourd régional du Conseil de coopération du Golfe. Donc, de toute façon, il ne pouvait pas ne pas passer par Riyad. Ça aurait d'ailleurs été considéré comme un affront. Donc, c'était une étape logique et nécessaire en termes géopolitiques pour le président de la République.
David Rioulet-Rose, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique, chercheur associé à l'IRIS. La fin ce lundi d'une visite de 2 jours et demi du pape François en Grèce, un voyage marqué par un déplacement sur l'île de Lesbos et par ses appels en faveur d'une meilleure intégration des migrants en Europe. Le repli sur soi et les nationalismes, comme l'histoire nous l'enseigne, mènent à des conséquences désastreuses selon les mots du souverain pontife. 4 combattants kurdes ont été tués, 5 blessés lors d'une attaque imputée au groupe État islamique dans le nord de l'Irak. La 3e attaque de ce type en moins de 2 semaines, elle a été menée tard hier soir et a fait des victimes dans les rangs des Peshmerga, les forces armées du Kurdistan irakien. Cet appel est d'Amnesty International. L'ONG appelle les pays à rapatrier les enfants étrangers enfermés dans des camps dans le nord-est de la Syrie. Selon la commission d'enquête de l'ONU, 27 000 enfants citoyens d'environ 60 pays sont détenus dans des camps administrés par l'administration autonome kurdo-syrienne. Entretien avec Lynn Malouf, directrice régionale adjointe pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord d'Amnesty International.
Il y a 2 camps principaux dans cette région du nord de la Syrie qui a accueilli toutes les personnes qui ont été déplacées donc lors du conflit avec Daesh ou l'État islamique. Donc que ce soit en Irak, soit en Syrie. La population de ces camps comprennent des djihadistes, des membres de l'État islamique, des personnes qui ont été associées soit directement, soit indirectement, soit des personnes, des familles, des individus qui n'ont rien à voir avec l'État islamique, mais qui eux avaient pris la fuite et qui se sont retrouvés dans ce camp de déplacés. Ces camps existaient bien avant ce dernier conflit, donc c'était un camp de déplacés. Maintenant, ces deux dernières années, bien sûr, la population du camp, principalement de Al-Hol, a explosé pratiquement. Aujourd'hui, il y a à peu près 60 000 personnes qui s'y trouvent, de plus de 60 pays, donc principalement de Syrie, d'Irak et de 60 autres pays. Pour les enfants qui se trouvent dans ces camps-là depuis plus de 2 ans, d'abord, ils sont à risque de vie. Alors, il y a un nombre de cas, il y a l'organisation Save the Children qui a recensé simplement cette année à peu près 14 enfants qui ont été tués donc lors d'incidents divers dans ces deux camps. Et puis d'un autre côté, alors, ils sont sujets à des conditions qui sont catastrophiques dans le sens où ils n'ont pas accès aux soins médicaux qu'ils devraient avoir, qu'ils n'ont pas accès à la nourriture, à l'eau propre. Ils sont dans des conditions très difficiles, certainement en temps d'hiver, comme on se prépare maintenant à rentrer en hiver. Et puis, il y a eu, bien sûr, la pandémie de Covid qui font que, même en termes de scolarisation, ils ont dû interrompre leurs études. Donc là, on voit bien que ces enfants-là sont dans un environnement qui est absolument traumatisant, où ils n'ont aucun accès à tous les besoins nécessaires. Et en plus de cela, ce qu'on a trouvé, en fait, en faisant notre recherche, c'est que les garçons, à partir de l'âge de 12 ans, sont emmenés et séparés de leur famille pour qu'ils soient mis dans des centres que les Asayesh, ou c'est la police de l'administration autonome kurde qui est en contrôle de la région, ils séparent les garçons qui, à partir de l'âge de 12 ans, pour les mettre dans ces soi-disant centres de réhabilitation qui sont en fait des centres de détention.
Et donc, vous demandez donc aujourd'hui le rapatriement de ces enfants en France, pour ceux qui ont la nationalité française. Comment ce rapatriement pourrait s'organiser? Comment ces enfants, surtout, pourraient être pris en charge et devraient être pris en charge par les autorités françaises?
C'est la responsabilité des autorités françaises et des autorités de tous les pays, donc 60 pays à peu près, qui ont encore des ressortissants dans ce camp. La question des enfants est urgente aujourd'hui. C'est de la responsabilité de ces pays-là de faire en sorte d'accéder au camp ou de faire en sorte de les rapatrier de façon imminente. C'est déjà en train de se faire. Il y a d'autres pays comme le Kazakhstan, comme les États-Unis, qui ont rapatrié leurs ressortissants et qui ont mis en priorité les enfants en faisant cela. Aujourd'hui, il y a une majorité d'Irakiens, donc ce rapatriement est en train d'être fait. Maintenant, ce qu'on est en train de demander aux États, c'est que les rapatriements de tous leurs ressortissants doivent être faits. Les enfants, sans aucun délai, parce que ça fait déjà 2 ans de perte de leur vie à ces enfants-là, la responsabilité juridique légale des autorités françaises ou autres qui ont des ressortissants, c'est de mettre en priorité l'intérêt de l'enfant. C'est-à-dire que si l'intérêt de l'enfant est de ne pas être séparé de sa mère, de son père, c'est de faire en sorte que les rapatriements se fassent en famille. Mais à condition donc que les membres de la famille, donc les adultes, soient enquêtés aussi comme suspects, comme possibles personnes qui auraient pu commettre des crimes lors de leur présence dans cette région-là.
Les parents donc qui devraient être jugés et ainsi du coup séparés des enfants à leur arrivée en France.
Oui, c'est ça. Ce qu'il faudrait faire, c'est qu'une fois que ces enfants sont rapatriés, qu'il y ait des programmes de réintégration, de réinsertion, qu'il y ait aussi en même temps, pendant ce temps, que les donateurs principaux, donc des États qui sont en train de financer un petit peu l'aide humanitaire dans cette région-là, soient aussi en train de s'assurer que cette aide financière qui arrive à ces camps-là soit axé aussi sur les besoins psychologiques des enfants qui s'y trouvent.
Et lorsque l'on vous écoute, l'on comprend que la mission de la France serait donc principalement une mission de réinsertion pour ces enfants dont certains ont pu subir une forme d'endoctrinement.
S'ils ont subi une forme d'endoctrinement, oui, certainement, mais l'urgence aujourd'hui, c'est de les enlever de cet environnement. Alors, quelque chose d'autre que je n'ai pas mentionné, c'est qu'il faut savoir aussi que la police à Saïch empêche, par exemple, les enfants à partir de l'âge de 2 ans, s'ils ont besoin de recevoir des soins médicaux qui sont en dehors du camp, leurs parents, accompagnateurs et même travailleurs de ONG sur place n'ont pas le droit d'accompagner ces enfants, même s'ils n'ont que juste 2 ans. Donc ce sont des éléments armés, des assaillages qui les accompagnent jusqu'à un hôpital. Il n'y a aucun processus de suivi. Donc les parents ou les personnes qui sont les responsables de ces enfants n'ont même pas moyen de savoir où se trouvent les enfants et quels sont les problèmes médicaux et quel suivi doit être fait, etc. Donc aujourd'hui, la responsabilité première et de toute urgence, c'est ce rapatriement. Et ensuite, une fois qu'ils sont rapatriés, il faut qu'il y ait des programmes qui sont ajustés, soit à leur tranche d'âge, aux conditions, mais de façon individuelle, au cas par cas.
Lynn Malouf, directrice régionale adjointe pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord d'Amnesty International. Une douzaine de militants de SOS Racisme ont été agressés par des participants lors du meeting d'Éric Zemmour hier à Villepinte. Ils menaient une action non violente. Ils se sont levés au fond de la salle avec une lettre en jaune sur chacun de leurs t-shirts noirs avec comme message « Non au racisme ». Ils ont alors été violemment pris à partie et frappés. Dominique Sopo, le président de SOS Racisme, a annoncé que des plaintes seront déposées. L'équipe de France féminine de handball poursuit son aventure au Mondial 2021. Elle s'est imposée hier soir face à la Slovénie avec un score final de 29-18. La Coupe arabe des Nations, la Tunisie, jouera sa qualification cet après-midi face aux Émirats arabes unis, coup d'envoi à 16h au Qatar. Fin de cette édition, vous êtes bien sûr Radio Orient à 12h30, votre journal en langue arabe avec Mazen Hamoud. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour le flash en français, 17h30 pour le journal. L'invité de Pluriel à 19h et 23h sera Jacques Baudrier, adjoint PCF à la maire de Paris, élu du 20e arrondissement, une émission présentée par Loïc Barrière. Très bon début d'après-midi à l'écoute de Radio Orient, il est 12h16.